Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être devant vous aujourd'hui, partager cette prédication de la parole de Dieu. Savez-vous que nous, les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, sommes la maison de Dieu? C'est un peu le thème de notre série qu'on fait en ce moment. C'est une des vérités les plus époustouflantes de la Bible. Écoutez deux passages de la Bible qui en parlent. Le premier, c'est en Hébreux chapitre 3, verset 6, qui dit « Christ, lui, est fidèle en tant que fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. » Et l'autre, sur le même thème, c'est Éphésiens 2, verset 20 à 22, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église en Éphèse. Il dit « Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. » Et donc, bien sûr, vous voyez là, ça parle d'un bâtiment, mais un bâtiment fait par les hommes et les femmes, les apôtres, Jésus-Christ lui-même, et puis l'Église en Éphèse, pour former une maison que Dieu habite par son esprit, un temple saint consacré au Seigneur. Donc, comme Michael a dit, aujourd'hui, c'est la troisième prédication dans la série. Nous sommes la maison de Dieu. Nous examinons les passages dans l'Ancien Testament qui parlent de la construction du premier temple à Jérusalem pendant le règne de Salomon. Et donc, dans la première prédication, Paul Kuhn nous a parlé de la naissance et le développement du désir de bâtir le temple. Emmanuel a continué le thème avec une prédication sur la sagesse pour la construction. La demande de Salomon à Dieu pour la sagesse plutôt que la richesse ou la gloire pour construire ce temple. Et aujourd'hui, notre thème, c'est, comme vous avez deviné par l'introduction donnée par Michael, c'est le service pour la construction. Si je me suis dit dans cette prédication, il y a peut-être un manque d'illustration. Mais je suis content parce que Michael a déjà donné des illustrations dans sa présidence. J'ai une question premièrement. Pourquoi lire l'Ancien Testament? Pourquoi prêcher sur l'Ancien Testament? Pourquoi parler de Salomon, un bâtiment qu'il a construit, qui n'existe plus à Jérusalem il y a 3000 ans? Aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, pas de lieu unique pour adorer Dieu, pas de lieu pour sacrifier les animaux. Donc pourquoi passer du temps le dimanche matin en méditant un passage de la Bible qui à première vue ne nous concerne pas? Pourquoi faire ça? Bon, pour expliquer ça, j'ai une question. Avez-vous fait des randonnées dans une région montagneuse? Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Et j'ai constaté quelque chose. Quand vous faites une randonnée dans ces régions-là, vous commencez souvent dans un parking, quelque part, et devant vous, il y a une colline. Et vous commencez à monter tout en suivant le chemin tracé. Et puis, vous arrivez au point le plus haut que vous avez vu du parking. Et qu'est-ce que vous voyez? Encore des collines, plus haut, plus grand devant vous. J'ai parlé à Joël Short hier soir de cette illustration. Il a dit oui, c'est vrai. Lui qui a beaucoup plus d'expérience de nous dans les montagnes, une colline encore plus haut devant nous. Et ça continue. Et la Bible, cette révélation de Dieu, est un peu comme ça. La construction du temple dans l'Ancien Testament était le point le plus haut dans l'Ancien Testament. Mais comme Manu nous a montré la semaine dernière, c'était qu'une étape dans le plan de Dieu pour nous. Déjà, quand ils ont construit le temple, ils ont vu qu'il y avait une autre étape, beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse, que Dieu avait prévue pour son peuple. Beaucoup plus magnifique, même que le temple de Salomon, qui était presque une des merveilles de l'ancien monde. Dieu parlait d'un roi à venir, un roi éternel, et Manu nous a montré que ce roi était Jésus. Hein? Donc le projet de Dieu était beaucoup plus grand que le temple, ce point haut dans l'Ancien Testament, beaucoup plus haut, beaucoup plus avancé que ça. Et le Nouveau Testament nous montre que le Nouveau Testament nous montre que le point le plus haut de l'Ancien Testament était presque rien par rapport à ce que Dieu allait faire dans ce monde. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'était de construire un temple pas fait avec des pierres, mais avec des pierres vivantes, avec nous, les hommes et les femmes, un lieu où il peut habiter, en nous, dans notre cœur. Il allait demeurer en nous par son esprit. Et c'est là où nous sommes en ce moment dans la révélation de Dieu. Comme dirait quelqu'un que je connais bien. Waouh, formidable. Beaucoup plus grand qu'on imaginait. La révélation de Dieu est progressive. Ça avance. Mais Dieu ne change pas. C'est important de souligner ça. Nous sommes à un point plus avancé que ceux qui ont construit le temple de Salomon. Mais il y a des choses dans la description de ce temple qui nous montrent ce qui est important pour Dieu et pour nous. Et ce qui devait se trouver son équivalent en nous. Parce que si il y avait ce temple de Salomon, point haut dans l'Ancien Testament, et si Dieu est en train de construire un temple fait avec nous, les êtres humains, les pierres vivantes, sûrement il y avait quelque chose dans l'ancien temple qui parle du caractère de Dieu et son plan qui sont vrais pour nous aussi aujourd'hui. Et nous allons trouver ça un peu plus loin dans la prédication. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est un texte long, c'est deux chroniques dans l'Ancien Testament, un des livres historiques, deux chroniques, chapitres 2 à 4. Donc on ne va pas lire tout ça parce que ça va prendre trop de temps. Mais on va juste regarder quelques points dans ce passage. Ce texte parle de la construction du temple à l'époque de Salomon. Et à la fin du chapitre 1, dans deux chroniques, on lit ce verset. Salomon décida de construire un temple consacré au Seigneur. Salomon décida de construire un temple consacré au Seigneur. Il y a un point de départ dans chaque projet. Puis, il y a beaucoup d'occasions pour servir. Dans notre texte, on a lu dans notre texte, on lit d'un roi, Huram, le roi de Tyr. Et Salomon avait de très bonnes relations avec lui, et les deux ont négocié un contrat amical pour la provision du bois de qualité pour la construction du temple. Huram a bien voulu servir dans ce projet. En plus, le texte, dans les trois chapitres de chroniques, parle aussi des spécialistes particulièrement habiles qui s'y sont engagés. Parmi eux, un certain Huram Abi. On va parler de lui plus tard. Mais la plupart du travail dans le temple était fait par 150 000 ouvriers et 1000 contremaçons. Donc, on ne connaît même pas les noms. Mais c'était un travail ensemble. Et les occasions pour servir ne manquaient pas dans ce projet. Depuis la résurrection de Jésus, Dieu est en train de construire une communauté de croyants dans le monde entier. Ici, dans l'Église évangélique d'Ozoir, nous avons notre rôle à jouer aujourd'hui même. Chacun a son rôle à jouer, comme dans la construction du temple dans l'Ancien Testament. Et ma prière ce matin, c'est que chacun ici présent suit l'exemple de Salomon et prend une décision ce matin. Michael a parlé de sa prière quand il voulait servir Dieu malgré les difficultés qui étaient devant lui, et le Seigneur a exaucé cette prière. Il a pris une décision. Et ma prière, c'est que ce matin, on prend une décision pour servir Dieu, de s'engager pleinement dans ce projet glorieux, de faire de nous et de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ dans le monde entier une maison, un temple où il habite par son esprit. Autrement dit, de servir dans la construction. Nous, on a un projet de bâtiment, mais le projet de bâtiment, c'est qu'un détail. C'est un grand truc pour nous, mais c'est un détail dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu est beaucoup plus grand que ça et concerne les êtres humains pour qu'ils puissent habiter dans notre cœur. Donc ça, c'est quelque chose d'encore plus glorieux qu'un grand bâtiment bien équipé, etc. Les chapitres 2 à 4 nous parlent de la construction du temple et nous donnent une sorte de visite guidée du bâtiment qu'ils allaient construire. Nous n'avons pas le temps de tout lire ce matin, mais permettez-moi d'être votre guide, donner une visite guidée du temple dans l'Ancien Testament. Suivez-moi et je vous montrerai trois choses importantes dans ce temple de Salomon et je vais essayer d'expliquer leur importance pour vous et pour moi. Et on va découvrir les choses qui nous motiveront de servir dans ce que Dieu fait avec nous et parmi nous à notre époque. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais let's go. Voilà. La première chose qu'on voit dans le temple, dans cette description qui se trouve dans notre texte aujourd'hui, il y a deux colonnes en bronze. À l'extérieur du temple, juste devant l'entrée, il y avait deux grandes colonnes en bronze. Chapitre 3, verset 15 à 17. On fit deux colonnes hautes de 17 mètres à placer devant le temple. Au sommet de chacune se trouvait un chapiteau de 2 mètres et demi de haut. On fit des chaînettes qu'on plaça au sommet des colonnes, puis on fit des décorations représentant le fruit de grenadier, une centaine qu'on suspendait aux chaînettes. On dressa les colonnes devant le sanctuaire, l'une à la droite et l'autre à la gauche de l'entrée. On appela celle de droite Yakin, ce qui signifie « Dieu a fermé », et celle à droite Boaz, en Dieu et la force. Impressionnante. Presque 20 mètres de hauteur, deux colonnes bien décorées. Mais beaucoup plus impressionnante encore, et ce sont les noms que portent ces deux colonnes. Dieu a fermé et en Dieu est la force. Imaginez là, vous entrez dans ce temple, passez par ces colonnes et qu'est-ce qui reste dans votre tête? Les deux noms. Dieu a fermé et en Dieu est la force. Tout récemment, nous avons eu combien de baptêmes? 6 baptêmes. Cette année, 13 baptêmes. Et chaque baptisé reçoit ces deux promesses qui étaient écrites, qui étaient le nom de ces deux colonnes. Chaque baptisé reçoit cette bénédiction de Dieu. On peut dire à chaque baptisé, Dieu vous a fermé. Dieu est votre force. Pas seulement pour ceux qui viennent de se faire baptiser, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous avez ces deux promesses. Dieu vous a fermé. et Dieu est votre force. N'est-ce pas? Ça, c'est le secret de la vie chrétienne. On est dans un projet qui va réussir parce que c'est Dieu qui a fermé. Et que c'est Dieu qui pourvoit. Deux promesses de la part de Dieu qui ne mentent jamais. Dieu vous a fermé. Dieu est votre force. Ensemble, en tant qu'Église, nous pouvons construire sur, avancer avec ces deux promesses. Dieu est pour nous et Dieu pourvoira pour nous. Ça, c'est le message de ces deux colonnes. Quelle motivation pour servir dans la réalisation du plan de Dieu. Ah, ces deux promesses. Incroyable, quoi. Il y a beaucoup de questions sur les projets. Qu'est-ce que Dieu va faire, etc. Mais on a l'assurance que ces deux colonnes, dont ces deux colonnes parlent. Dieu nous a fermés. Dieu est notre force. Quelle motivation pour servir dans la réalisation du plan de Dieu. On a déjà cité Hébreux 3, verset 6. Mais j'ai lu que la moitié du texte. Le reste dit, « Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. » On a besoin de garder cette assurance qui nous donne le nom de ces deux colonnes. Jésus a dit, pour moi c'était la promesse la plus merveilleuse dans la vie d'une église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon église. » Jésus n'a pas dit le pasteur bâtira son église, ou les membres bâtiront leur église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il ne va pas céder la place aux autres. Mais nous, on peut participer dans cette construction, mais c'est lui qui va bâtir son église. Et donc, le principe de ce premier point, la visite des deux colonnes, c'est que le service est fondé sur la confiance en Jésus. On croit en Jésus. On croit qu'il va réussir dans son projet. Deuxième chose qu'on voit dans ce temple, c'est l'autel. Entrons maintenant dans le bâtiment. La première chose qu'on voit en entrant dans ce temple de Salomon, c'est un autel, un lieu de sacrifice. Chapitre 4, verset 1, on fit un autel de bronze de 10 mètres sur 10 et 5 mètres de haut. Ça, c'est un rappel fort du message de la Bible de la première page à la dernière. Nous pouvons approcher de Dieu seulement par sacrifice. La Bible a un message clé à nous donner, c'est ça. On peut seulement approcher de Dieu par sacrifice. Dieu est trois fois saint et nous sommes par nature corrompus. Ça, c'est la division entre nous et Dieu. Et le besoin d'un sacrifice pour approcher de Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système de sacrifices. Un précurseur d'un sacrifice qui sera 100% efficace pour nous donner accès à Dieu. Et c'est Jésus qui l'a fait. Hébreux 7, verset 27. Verset remarquable. Il, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, a offert un sacrifice une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Bible, hein? Nous n'avons pas besoin de trouver un sacrifice pour avoir accès à Dieu. Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Ça, c'est la grâce. Amazing grace, comme on dit en anglais. Christ est mort pour moi. Comme on chante souvent dans cette église, ce chant que j'aime beaucoup. Je suis libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dis ça avec moi. Je suis libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. J'étais impressionné par le témoignage de Morgan, qui a dit à un certain moment dans sa vie, il a vu la colère de Dieu et l'amour de Dieu en même instant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que nous méritons la colère, mais il nous montre son amour. Remarquable. On est où? Cette bonne nouvelle doit pénétrer et diriger tout ce qu'on fait dans l'Église. Elle a un effet sur notre vie de tous les jours, sur nos décisions, sur nos relations, sur notre comportement, sur nos projets, sur notre argent, sur notre temps. Ce principe est partout. La grâce de Dieu, on n'agit pas la grâce de Dieu. On dépend de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul en parle en Romains 12, deux premiers versets. Je dirais, frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez ainsi discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Un sacrifice vivant, ça c'est notre réponse au sacrifice que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique de vivre comme un sacrifice vivant? Galates 5, verset 13 nous donne la réponse. Mais vous, frères, dit Paul à cette église en Galate, vous avez été appelés à la liberté. Je suis libéré, ma dette est payée, etc. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service. Ding, 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 les uns les autres. Hein? Au service. C'est ça, un sacrifice vivant. Être au service de Dieu, au service des autres. Donc, le deuxième principe, le service, c'est le fruit de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre réponse à la grâce qu'il nous a montrée. Et donc, revenons à notre visite guidée. La troisième chose que je vais vous montrer est peut-être surprenant. C'est tout simplement le nombre d'objets destinés au temple et fabriqués en bronze poli par cet artisan talentueux, Huram Abi, dont on lit en chapitre 4, verset 18. Salomon fit faire une telle quantité d'objets qu'on ne cherche même pas à connaître le poids du bronze utilisé. Donc dans le temple, il y avait beaucoup d'objets qui étaient utiles juste pour le fonctionnement du temple, mais une quantité énorme. Ils n'ont même pas compté la quantité de bronze qu'ils ont utilisé pour fabriquer ces outils. Ces objets représentent tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du temple, et symboliquement, ces objets représentent tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une église. Qu'est-ce qui est utile pour le bon fonctionnement de notre église, ici, à Ozoir? Savez-vous, il y a un groupe qui prie chaque dimanche matin avant le culte. Si vous êtes béni pendant le culte, c'est une des raisons, c'est qu'il y a les gens qui prient. Les gens qui prient, qui intercèdent pour vous, qui intercèdent pour cette église et qui prient pour l'œuvre de Dieu. Là. Il y a un confrat, n'est-ce pas? Est-ce que vous embauchez dans l'équipe confrat? Oui. Si, par exemple, il y a un repas et ça marche bien, c'est grâce au confrat, ça aide le fonctionnement de l'église. Il y a la garderie, il y a l'école de dimanche, il y a une équipe l'équipe de la musique, quelqu'un qui prépare une prédication, quelqu'un qui dirige la présidence, il y a une équipe qui forme les futurs baptisés, beaucoup de choses différentes, il y a une équipe d'accueil, le bon fonctionnement de l'Église. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours besoin pour plus de personnes dans ces équipes-là. Et donc, je vous encourage. Chaque responsable de ces activités, ils disent la même chose. On embauche. Donc, voilà. Vous avez seulement besoin de prendre ce premier pas et contacter. Mais attention, parce que comme Michael a dit, attention à ce qu'on prie, et attention à ce qu'on propose, parce que ça peut aller loin. J'ai le témoignage moi-même que j'étais avec Osmey, on était à une conférence en anglais, c'était au Pays de Galles, et le prédicateur a dit, peut-être parmi vous, il y a ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste du train-train, ils ne font pas grand-chose, etc. Et il dit, si c'est vous, levez la main. Et moi, je lui dis, c'est moi. Mais je ne veux pas lever la main parce que Rosemary est à côté de moi. Quoi. Et je regarde Rosemary, elle a dit, je vais lever ma main. Je ne sais pas, mais moi, je vais lever la main. Donc, j'ai levé ma main aussi. Un an plus tard, j'ai reçu une lettre de l'Institut biblique qui m'a accepté en tant qu'étudiant. Un an plus tard. Pendant cette année, après avoir levé ma main dans cette réunion, Dieu a tellement exaucé la prière que nous étions à un institut biblique. Et depuis, 3 ans plus tard, j'étais pasteur d'une église. Donc, quand on fait un pas avec le Seigneur, il nous prend au sérieux. C'est une bonne chose. Mais notez bien ce qui était dit sur ces objets dans le temple. On ne cherchait même pas à connaître le poids de bronze utilisé. Chose importante, là. J'ai la réputation de toujours citer un certain Charles Spurgeon dans mes prédications. Spurgeon, grand prédicateur en Angleterre, 19e siècle. Mais aujourd'hui, on ne va pas avoir une citation de Spurgeon. Non, mais un de ses contemporains, un homme qui s'appelle Frederick Mayer, qui était aussi un pasteur. On voit la gentillesse dans son visage, la sagesse dans son visage. Et Mayer a dit la chose suivante sur ce verset. Il dit, il y a une tendance en nous tous de compter ce qu'on donne à Dieu. Mais ce verset nous encourage de laisser cette tendance derrière nous. On ne comptait même pas la quantité de bronze qui était utilisée pour fabriquer les ustensiles dans le temple. Mayer dit, il y a une tendance en nous tous de compter ce qu'on donne à Dieu. Et ce verset nous encourage de laisser cette tendance derrière nous, de donner généreusement. Et j'ai constaté que la générosité est souvent une des premiers fruits de la conversion. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, une des premières choses qu'on voit, le changement qu'on voit dans leur vie, c'est qu'ils deviennent généreux. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Matthieu 10, verset 8. On a reçu de lui. Et le fruit en nous, c'est de donner. Et donc, le troisième principe, c'est le service est fait avec générosité. Conclusion, juste deux mots. Dieu nous donne l'occasion de servir dans son plan éternel. Chacun de nous, sans exception. Ici, présent aujourd'hui. Il cherche des serviteurs qui ont confiance en lui, qui sont motivés par la grâce reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont prêts à servir avec joie et générosité. Je vous invite à prendre votre place parmi eux. Amen.